La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Es-tu prêt?
Bienvenue tout le monde sur La Réalité Augmentée, JB Gagné, ton animateur, et avec moi cette semaine pour une nouvelle variante de l'émission. Je disais à la blague qu'on allait appeler ça le plateau. Ben, j'aime ça, l'idée de l'appeler ça le plateau, parce qu'on va faire un spécial jeu de société. Avec moi, un bon ami, Maxime Giguère. Salut Max!
Salut JB!
C'est pas la première fois que tu viens sur le show. Les dernières fois, c'était pour parler, entre autres, de logo, parce que c'est toi qui a tout fait, à part le premier sur Paint, parce que j'ai beaucoup de talent que j'avais fait, mais c'est toi qui as tout fait les différents logos de l'histoire de la réalité augmentée. Donc, une fois par mois, un petit peu comme j'avais mentionné sur un des derniers shows avec Luc, j'avais lancé l'idée qu'on fasse des épisodes qui soient plus centrés sur les jeux de société, parce que c'est une des affaires qui me fait pas mal triper. Ce qui est le fun avec ça, c'est que particulièrement la concubine, ma blonde, qui aime aussi jouer à des jeux de société. Fait que c'est le fun, les jeux vidéo, mais c'est le fun quand ta partenaire de vie tripe sa même affaire que toi. Fait que j'ai comme plus le hockey pour acheter des jeux. Fait que ça, c'est vraiment nice. Donc, on s'est dit sur la réalité augmentée qu'on ferait des podcasts plus dédiés aux jeux de société. Et j'ai découvert que Max trippait aussi sur les jeux de société. Fait qu'on s'est dit, on va faire ça en tête à tête, copain-copain, et on va parler de jeux de société ensemble. Juste pour placer notre intérêt pour la matière. Max, j'aimerais ça savoir d'où te vient ton amour des jeux de société. Et tu te considères là, joueur expérimenté, pas expérimenté. C'est quoi ton niveau d'après toi là?
En fait, j'ai joué à des jeux de société dès mon jeune enfance. On avait des jeux classiques, Monopoly, Toc, etc. Donc, j'ai joué avec ça avec mon frère et ma mère dans le temps. Donc, ça a tout le temps été développé. Puis, j'ai toujours aimé. Je me suis toujours considéré, en fait, comme un social gamer. Donc, je joue à des jeux vidéo la majorité du temps en gang. J'aime ça parler avec des gens, j'aime ça avoir des interactions. Donc, le jeu de société, c'est l'idéal pour ça. On s'entend. Mm-hmm. Et à ce niveau-là, je viens de faire l'acquisition l'année passée d'une maison qui a un espace qui est, comme tu as pu le voir, en fait, en fin de semaine, va sûrement être transformé pour pouvoir accueillir des gens et jouer à des jeux de société pour justement agrémenter ce plaisir-là que j'ai de voir des gens. Puis, je me considère vraiment pas tant expérimenté, mais j'apprends assez vite. Puis, j'aime essayer des nouveaux jeux. Donc, oui, il y a de l'argent qui va être dépensé là-dedans éventuellement. Et ma collection va grossir relativement rapidement une fois que mon espace sera construite.
Cool! Moi, de mon côté, c'est avec des amis. Tu sais, je suis originaire du Lac-Saint-Jean et j'avais un de mes chums. Lui, là, il y avait tous les jeux, en fait, tous. Exagération, là, mais il y avait tellement de jeux et ce qu'on faisait, c'est que même on se mettait en gang pour pouvoir acheter des jeux parce qu'on jouait toujours la même clique d'amis ensemble et lui, il se promenait avec une genre de valise de hockey là, sur roulette et il avait tous ses jeux à l'intérieur de cette valise-là. Je fais ça d'ailleurs, je me promène avec mes jeux aujourd'hui. C'est mon tour de partager ce plaisir-là. T'as pu le constater en fin de semaine, Max, je me promène avec mes jeux. Et dans le fond, ça vient de là, donc de l'adolescence où est-ce qu'on jouait à des jeux comme Catan, qu'on jouait à des jeux, le jeu de société de World of Warcraft, tous les jeux de ce style-là, Saboteur, en fait, plein de jeux. Et mon amour du jeu de société vient vraiment de là parce que quand j'étais plus jeune, j'ai jamais vraiment joué à des jeux de société. Il y a tout le temps la petite game de Monopoly puis de Clou, c'est classique que maintenant tu sors le jeu puis voilà, on fait le tour. Risque aussi, mais que tu finis jamais une game parce que c'est ben trop long quand tu es jeune. Donc, il y avait oui, il y avait eu ces expériences-là, mais ça n'avait pas été tellement marquant. C'est vraiment à l'adolescence où est-ce que dans mes LAN parties avec mes chums, on prenait des pauses de l'ordinateur puis on allait jouer à des jeux de société. Je me souviens entre autres d'un méga gros LAN qu'on avait, on avait loué un ancien couvent à Saint-Prime, au lac Saint-Jean, dans le nord du lac Saint-Jean, et on avait fait une giga game de loup-garou. Et un jour, on fera la critique et on parlera du jeu loup-garou qui est tellement un classique et un plaisir pour jouer en gang, mais en grosse gang. Et donc, ça vient de là, mon amour des jeux de société. Cette semaine, sur l'émission, on va faire, on va chacun comme critiquer, parler d'un jeu dans notre ludothèque. Toi, Max, cette semaine, tu vas parler de quel jeu?
The Game, le jeu n'est pas votre ami.
Non, et moi, je vais parler de le jeu que j'utilise pour amener des gens, des non-joueurs, à triper sur les jeux de société. C'est le... Tu sais, quand on dit tu mets le doigt dans l'engrenage, puis rester coincé, puis rentrer là-dedans, là, tu sais, à pleine vitesse, c'est le jeu que j'utilise pour les non-joueurs, pour les initiés, ou ce que j'appellerais la nouvelle vague des jeux de société. Ça s'appelle Catan. Fait que Max, je vais te laisser y aller en premier avec ton explication de c'est quoi The Game et d'où tu tires ton plaisir par rapport à ce jeu-là.
Parfait. Donc, The Game, le sous-titre pour que ça soit accepté ici en français, c'est « Le jeu n'est pas votre ami ». La raison est simple, c'est un jeu de cartes coopératif dont le but est de réussir à défausser les 98 cartes dans 4 piles. Les 98 cartes sont numérotées de 2 à 99 et il y a 4 défausses. 2 qui vont de 1 à 100 et 2 qui descendent de 100 à 1. Donc, chaque joueur joue à son tour et n'a pas le droit de communiquer avec les autres joueurs pour dire qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains. Donc, c'est de là que la difficulté du jeu prend tout son sens. De plus, les seuls éléments qui vont permettre aux joueurs de récupérer des coups qui sont moins bons, c'est faire des bons de 10 dans le sens inverse de la défausse. C'est-à-dire que si la défausse va de 1 à 100, c'est la carte 23 qui est sur le jeu. Si on veut redescendre vers le 1, il faut mettre un 13. Donc, ça permet de revenir en arrière puis libérer des endroits où est-ce que des cartes auraient pu être manquantes. Donc, comme je disais, le but, c'est de réussir à vider le paquet au grand complet et de les mettre dans les 4 défausses. Si un joueur ne peut plus jouer, la partie est terminée. Donc, le plaisir vraiment de ce jeu-là, c'est sa simplicité. C'est un petit jeu qui coûte à peu près 15$, qui est facile à prendre en main, difficile à maîtriser, comme tu as pu le voir en fin de semaine.
Faut que tu aies le cerveau à la bonne place parce que faut que tu suives parce que c'est ça, il y a comme tu as deux piles qui vont dans un sens, tu as deux piles qui vont dans l'autre et particulièrement ma blonde joue avec nous autres puis à toutes les fois il fallait dire OK, ça pour faire le bon 10, faut que tu fasses mettons 13. Ah, ça va être 26, ça c'est parce que avec de la misère là-dessus. Ma blonde, c'est drôle là-dessus. Elle est super bonne pour avoir des stratégies mais là ça allait trop vite pour elle. Fait que tranquillement une carte à la fois, puis là, OK, elle fait le calcul dans sa tête. OK, ça va être 13. OK, c'est bon. Vas-y, tu peux continuer.
Donc, il y a certaines stratégies, par contre, qui viennent aider ça. C'est que les cartes qui indiquent les défauts, on peut la virer, puis c'est la seule communication qu'on peut avoir avec les autres pour dire, ben j'ai quelque chose que je peux faire d'intéressant sur cette pile-là. On ne dit pas quoi, mais j'ai de quoi d'intéressant. Donc, c'est là que tout le plaisir pour moi vient, c'est vraiment le côté, on essaie d'être le plus stratégique, de faire le moins de dégâts possible, tout en permettant aux autres de jouer, puis c'est tout le temps un jeu où est-ce que t'es un petit peu sur le stress, mais pas trop, ça porte vraiment de la stratégie, c'est un peu plus de chance, puis les seuls éléments stratégiques que tu peux avoir, c'est quand tu maîtrises un peu plus le jeu et que tu sais comment tu peux faire pour revenir en arrière dans la défausse pour réussir à gagner la partie.
Ouais. Une des affaires, tu dis qu'il y a beaucoup de chance. Oui, il y a un facteur hasard parce que les cartes que tu piges dans tes mains, tu le sais pas. Tu sais, c'est pas toi qui détermine. Tu sais pas qu'est-ce que les autres joueurs vont jouer. Tu as un petit peu des indications. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tant que tu as des cartes que tu peux piger, faut que tu déposes 2 cartes à ton tour. Ça, c'est le minimum. Mais il n'y a pas de maximum. Donc, mettons que tu as une pile qui va de 1 à 100 et que tu as les cartes 11, 12, 13, 14, mettons, ben, tu pourrais déposer 4 cartes à ton tour, ce qui permet d'inclure 4 cartes dans une pile dans le plus petit espace possible, au lieu de faire, mettons, 10, 22, 38, 60. Puis là, tu as des bons qui sont comme énormes. Et des fois, tu n'as pas le choix. Mais c'est de savoir un petit peu comment est-ce que faut que tes joueurs soient alertes aussi de pouvoir présenter, virer les cartes, là, les indications que tu peux donner comme hey, « j'en ai une proche » ou « égale », nous autres, c'est le symbole qu'on s'était dit pour dire « hey, je suis capable d'annuler, de descendre de 10 ». Faut que tu sois alerte, là, faut que tes autres joueurs soient alertes. Mais il y a moyen un petit peu d'y aller de stratégie là, dans tes cartes tant que tu es capable d'en avoir assez dans tes mains. Là.
En effet, il y a un des éléments de stratégie qui est vraiment ne déposez pas vos cartes trop rapidement. Ça, c'est un des éléments qui est hyper important. Par exemple, comme ton exemple de 11, 12, 13 et 14, ne déposez pas d'un coup. Mais le 11...
Attends un peu.
Attends un petit peu parce que c'est sûr que le 11, il n'y a pas de 1 dans le jeu. Fait que tu le sais que tu peux mettre le 12. Mais si quelqu'un a le 2, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que les autres ont dans les mains. Si le 2 n'est pas sorti puis tu te souviens qu'il n'est pas sorti, tu mets le 12, tu attends un petit peu. Est-ce que quelqu'un tourne la carte? Non. OK. 13. Ah, il n'y a encore personne qui tourne la carte. Je fais mon 14. Donc, c'est des petits trucs comme ça qu'on se développe au fil qu'on joue au jeu. Puis, ça permet de vraiment dire, ben check, si tu joues trop vite, je n'ai pas le temps de faire d'indication puis de réfléchir à une indication. Donc, joue plus lentement. Puis ça va permettre peut-être de faire un meilleur coup. Puis, si tu es capable, si c'est déjà ta deuxième carte, tu n'es pas obligé d'en mettre d'autres de toute façon. Donc, c'est là que le côté stratégique, comme tu dis, embarque vraiment. Puis, c'est aussi un des éléments qui est vraiment plaisant de ce jeu-là.
Ouais. Nous, on a joué à 3 quand on est allé chez vous, toi, moi, ma blonde. Et tu nous contais que le niveau de difficulté du jeu varie selon le nombre de joueurs.
En effet, le jeu, en fait, joue de 1 à 5 personnes. Une personne, tu es la seule personne qui va avoir toutes les cartes dans les mains, donc arrange-toi avec tes problèmes, comme on dit. Donc, c'est ta responsabilité de le réussir. À 2, c'est pas si difficile parce que tu as 50% ou presque des cartes qui vont passer dans tes mains, puis dans les mains de ton partenaire. Donc, c'est quand même relativement facile et tu as juste une personne qui peut avoir des cartes. Mais quand tu es rendu à 5, j'ai joué à de 2 à 5 joueurs dans des parties différentes. À 5 joueurs, même si tu vires une des cartes pour dire « j'ai quelque chose d'intéressant sur cette défausse-là », c'est très fort plausible que ça n'arrive pas à ton tour.
Parce que toi, tu puisses rejouer, tu peux avoir jusqu'à 4 personnes, dans le fond.
Exact.
Ça, ça implique donc 8 cartes. Fait qu'il faut que tu les mettes à quelque part. Puis des fois, ben, à moins que tu indiques que tu peux descendre de 10, qui serait vraiment, tu sais, absolument bénéfique, là, tu peux... t'as quasiment pas de chance que tu puisses te rendre à revenir à ton tour sans que tu aurais scrappé une autre pile qui aurait été plus dommageable que toi, ton bon. Là.
Exact, exact.
Ouais, donc, moi j'ai vraiment aimé ça, ce petit jeu-là. D'ailleurs, je me le suis procuré par la suite. Super simple. La compréhension, écoute, ça prend 2 secondes. Là. Tu mets les 2 premières cartes puis tout le monde comprend le principe du jeu. Super transportable parce que c'est un paquet de cartes. Là, tu pourrais juste le serrer avec un élastique puis merci, bonsoir, t'as même pas besoin de la boîte. Et l'autre affaire, c'est le fait de pas parler. Moi, j'avais peur que ça... Tu sais que ça... Tu sais, dans une soirée, là, ah, c'est le party, tout le monde jase, puis là, ce genre de jeu que, tu sais, ça pourrait venir casser le party. Mais le stress embarque tellement. Il y a une excitation de pas être en mesure de se parler puis de pas savoir c'est quoi le jeu des autres puis qu'on se bat ensemble contre la game, ça amène un thrill qui est vraiment le fun à vivre.
Puis ça permet de parler d'autre chose que le jeu en même temps. Là. Tu peux pas parler de ta stratégie, mais tu peux parler de quoi que ce soit autre pendant le jeu. C'est sûr que ça déconcentre les autres joueurs, mais...
Mais tu sais que si tu... perds ton attention pendant 2 secondes que t'es perdu. T'sais, tu peux pas revenir dans le jeu, il faut que tu sois 100% tout le temps focus. Là, tu peux partir, tu peux vaguer à d'autres occupations à la limite. Là. Tu peux prendre une pause en plein milieu puis pas être déstabilisé puis t'sais, pas capable de revenir. Là.
En effet, ça se reprend très facilement comme jeu.
Autre truc, qu'est-ce qu'on pourrait parler à propos de The Game? Il y a des variantes aussi que tu me disais. Parce que si, mettons, tu es rendu trop bon, là, tu peux te mettre encore plus dans la marde.
En fait, il y a une extension qui vient, je crois, maintenant avec les boîtes de base, qui s'appelle The Game on Fire. Donc, le sous-titre, c'est Le jeu n'aime pas perdre.
Ah.
C'est des cartes qui sont bleues, qui sont les multiples de quelques multiples de 11, donc 22, 33, 44, 55, 66. Je crois que je ne suis pas sûr s'il y a le 77 dedans. Bref, ces cartes-là sont bleues. On voit que le chiffre est en feu. Et ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que quelqu'un dépose une carte comme qui est en feu, il faut absolument que ce joueur-là ou le joueur suivant recouvre la carte, sinon la partie est terminée. Donc, ça vient rajouter un élément de difficulté qui est relativement intense, dans le sens que si la personne qui peut le recouvrir est c'est un 33 puis il y a un 55 ou un 54 en fait, ben ils viennent de faire un gros bond pour ne pas perdre la partie. Mais ça devient hyper nuisible.
Ouais.
Donc ça, c'est une des variantes qui vient, c'est l'extension qui vient directement avec le jeu. Sinon, des variantes que nous, on a joué avec aussi, parce qu'à deux, c'était relativement facile. Ils appellent ça le mode expert. Donc, celui qu'on a essayé, nous, qui nous a fait perdre, on avait gagné quatre parties d'affilée. Celle-là, on l'a perdue assez royalement, je devrais dire. Durant son tour, un joueur doit poser au minimum trois cartes. Donc, c'est plus deux, c'est trois. À trois cartes par tour, oui, le paquet descend plus vite. Mais si le joueur n'a pas de jeu dans les mains, il est obligé de faire quelque chose qui est relativement dommageable pour les piles de défausse. Il y a trois cartes à poser de toute façon.
Ouais.
Une des autres qui considère encore plus difficile, c'est que les joueurs ont une carte en moins dans leurs mains. Donc, les cartes dépendent du nombre de joueurs. Un joueur, c'est huit cartes. Deux joueurs, c'est sept. Trois à cinq joueurs, c'est six cartes dans les mains. Mais avec une carte en moins, ça donne beaucoup de jeux en moins, possibilités en fait en moins. Puis c'est toujours plus difficile comme ça. Puis si en plus on met l'autre élément de difficulté qui est le trois cartes, c'est rock'n'roll.
Ouais. Ah non, j'imagine, parce que nous, on a joué à trois avec juste le jeu de base là, avec six cartes en main. Et on a joué trois parties. Trois ou quatre, puis on les a toutes perdues, là. Il y en a que c'était vraiment loin, qu'on n'avait pas terminé d'avoir pigé toutes les cartes. Et il y en a au moins deux là, qu'on s'est rendu à juste les cartes qu'on a dans nos mains. Puis que, ben, à un moment donné, c'est que tu n'as tellement plus d'options, tu n'as tellement plus de marge de manœuvre, puis que ben, tu fais des bons qui n'ont pas de bon sens ou tu n'es juste pas capable de placer tes cartes. Est-ce que tu veux y aller avec une note ou une impression générale ou une recommandation par rapport au jeu?
En fait, je le recommande. C'est un jeu que, pour le prix surtout, pour une quinzaine de dollars, ça vaut vraiment la peine pour le plaisir que ça accorde. Puis, c'est un jeu qui peut jouer facilement tout seul ou en couple, ce qui est relativement rare dans les jeux de société. C'est en train de se développer à ce niveau-là. Beaucoup de jeux qui sortent en duo. Puis, pour ces raisons-là, moi, je donnerais un bon 8 sur 10.
Oui, non, j'avoue que c'est une excellente note. C'est plus moi, c'est l'aspect de la rejouabilité que je me questionne. Là, c'était le fun, on était avec des. Tu sais, on était nouveau, c'est la première fois qu'on y jouait. Toi, tu l'as depuis un bon petit bout de temps avec ta conjointe. Est-ce que tu sais, sur le long terme, tu as souvent le goût de jouer?
En fait, pour être honnête, ça fait un mois et demi, je crois que j'ai le jeu. On l'a essayé chez un ami qui, lui, on était cinq à la table. On a vraiment adoré. Ma blonde a adoré au point où ce qu'on l'a acheté le lendemain. Puis on a joué à deux. On a joué avec vous. On a joué avec un autre couple d'amis. Donc, ce qui fait que le jeu est plaisant, c'est la facilité que n'importe qui peut y jouer. Donc, on peut y jouer avec n'importe quel ami, même s'ils ne sont pas des fervents de jeux de société, puis qui n'ont pas les connaissances avancées d'un jeu de société, puis ils prennent les stratégies du bout des doigts, puis ils vont maîtriser le jeu. Ils n'ont pas besoin de maîtriser le jeu pour avoir du plaisir avec. Donc, c'est pour ça que j'ai donné une note qui est quand même haute. Oui, à deux, on a fait une soirée où ce qu'on avait fait quatre parties. Ma blonde et moi, on a eu bien du plaisir. On va sûrement refaire d'autres bientôt pour le plaisir d'essayer de battre les modes experts. Donc, on va essayer de battre les deux modes experts séparément et ensemble, même qu'on ait réussi. Donc, c'est ce qui fait que le petit côté de rejouabilité fonctionne. C'est le fait qu'il nous donne des variantes, puis une extension directement dans la boîte de base. Donc, ça te permet de faire des combinaisons jusqu'à 6 combinaisons différentes.
Oui.
C'est assez intéressant.
Oui, oui, j'avoue. Donc, c'était ta critique pour The Game. D'ailleurs, juste le nom, là, j'aime bien ça. Mais en même temps, ça peut être mélangeant parce que, tu sais, le jeu, là. Oh, ouais, le jeu, là. Bon, à mon tour maintenant, je vais vous parler de les colons de Catan, ou juste Catan, dépendamment comment est-ce que vous l'achetez. En anglais, c'est juste Catan. C'est un jeu qui date quand même de quelques années. C'est un jeu qui est sorti, laissez-moi aller sur la fiche Wiki, on parle de 1995 pour la première édition. L'auteur, c'est Klaus Tubert. Tubert? Je ne sais pas comment on le prononce, regarde, pas grave. Et c'est un jeu qui est originaire de l'Allemagne et qui a lancé un petit peu une nouvelle façon de jouer, une nouvelle mécanique de jeu qu'on pourrait dire comme placement d'ouvriers, plus ou moins, mais c'est plus la collecte de ressources. Ce jeu-là est très simple. Peut-être que là, comme je vais vous l'expliquer, juste à l'audio, pas de visuel, ça va peut-être être plus compliqué à saisir les mécaniques du jeu, mais une fois installé sur votre table, c'est super simple. Max, tu peux en témoigner,
en effet.
En fait, c'est une île qu'on va construire avec des tuiles qui sont en forme hexagonale. Et ces tuiles-là vont représenter différentes ressources. Elles sont entourées de rives, dans le fond, d'eau. Et entre les tuiles, donc où est-ce qu'elles s'accotent, c'est l'endroit où est-ce qu'on va placer des routes. Et les points de rencontre des tuiles, donc les coins, c'est les endroits où est-ce qu'on va pouvoir installer nos villages et nos villes. Chaque village et ville qui touche une tuile, donc va toucher à 3 tuiles tout le temps, va permettre de recevoir les ressources associées à ces tuiles-là. Comment on reçoit les ressources? C'est avec un brassage de 2D6, ce qui veut dire qu'il y a des options de 2 à 12. Et chaque tuile va avoir une pastille sur laquelle il y a un chiffre qui va être inscrit de 2 à 12, excluant le chiffre 7 qui est pour le voleur. Le voleur, c'est une mécanique où est-ce que tu as un petit bonhomme qui vient être déplacé par le joueur qui a tiré un 7 sur une des tuiles pour bloquer la sortie de ressources de cette tuile-là. Donc, les chiffres les plus avantageux, les 6, les 8 de ce monde, vont souvent être ciblés. Ou encore des endroits où est-ce que si tu joues à 3, ben, où est-ce que tu as 2 de tes adversaires qui sont à cet endroit-là pour pouvoir les empêcher de recevoir les ressources. Donc, c'est très, très simple. Les ressources que tu récoltes avec les lancements de dés vont te permettre de construire différents éléments ou de faire des achats. Tu as des cartes de développement qui sont différents power-ups qu'on pourrait dire dans le domaine du... pour faire un parallèle avec le domaine du jeu vidéo, qui vont te permettre, exemple, d'avoir des ressources gratuites, de construire des routes, de réclamer des ressources aux autres, d'avoir des chevaliers qui permettent de déplacer le voleur à ta guise, au lieu de tirer un 7, tu utilises cette carte-là, ça permet de le tasser dans tes pattes ou d'aller bloquer un de tes adversaires qui est en position de gagner. Tu as des points de victoire, tu as des choses comme ça. Et aussi, tu peux construire des routes, des villages et des villes. Le gros plaisir de ce jeu-là, c'est dans les négociations pour des ressources. À chaque fois que c'est le tour d'un joueur, il lance le dé. On remet les ressources aux gens dont le chiffre est sorti. On va avoir des petites pastilles, les tuiles qui ont le chiffre qui est sorti, exemple 4, ben, vont recevoir leurs ressources. Une fois que ça c'est fait, avec les ressources que tu as en main, tu peux construire et tu peux aussi négocier pour faire des échanges de ressources. Les ressources, il y en a 5. Il y a les moutons, les brebis, peu importe comment vous les appelez. Tu as du bois, de la brique, de la pierre et tu as du blé. Des combinaisons de tout ça là, en différents nombres vont vous permettre de construire des routes, des villages, des villes ou acheter une carte de développement. Donc, les échanges, c'est là que vraiment le gros plaisir du jeu se retrouve. Parce que, on va se le dire, en termes de stratégie, c'est plus ou moins limité. Tu peux bloquer le chemin à ton adversaire pour pas qu'il puisse développer une colonie à un endroit que toi, tu espères avoir. Les chiffres sur les passés, c'est nous, on les mélange toujours et on les présente de façon aléatoire une fois que le placement des premières colonies est fait à l'installation du jeu pour qu'il y ait le plus de hasard possible, pour pas que quelqu'un puisse de base choisir son emplacement par rapport aux chiffres qui sont disponibles. C'est toutes des variables et des variantes qu'on peut faire avec le jeu. À force d'y jouer, on y met un petit peu sa sauce. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de hasard. Si tu tombes sur des tuiles avec des bons chiffres, les dés ont plus de chances de sortir à ces endroits-là. Ben, il y a de fortes chances que les probabilités soient de ton côté et que tu puisses avoir plusieurs ressources qui te permettent de construire. Et plus tu construis, plus tu as accès à des ressources et à des chiffres différents, et plus ça devient de manière exponentielle. Un village, un point de victoire, une ville, deux points de victoire. Donc, et l'objectif, c'est d'atteindre le total de 10 points de victoire. Le premier qui se rend là a gagné. Est-ce que j'ai oublié des choses, Max? C'est une longue énumération, là, mais.
Non, tu as oublié les deux cartes de points de victoire supplémentaires, mais ça...
Oui, c'est vrai, tu as des genres d'objectifs. Tu as une carte qui vaut 2 points de victoire qui est pour la route la plus longue. À partir de 5 routes de suite, tu as accès à cette carte-là et quelqu'un pourrait te la voler en atteignant 6, 7, tout le temps au moins un de plus. Et tu as l'armée la plus puissante qui est une des cartes que je vois le moins régulièrement sortir parce que ça coûte quand même cher et être en mesure d'aller chercher des cartes, des cartes de développement au hasard et d'avoir trois de ces cartes-là qui ont la même chose, soit un chevalier. Donc, mais c'est une façon d'aller chercher des points supplémentaires. Donc, ces deux cartes-là, il y a 4 points possibles avec d'autres choses que juste la construction de villes et de villages. Max, vu que tu as joué aussi avec nous, j'aimerais savoir tes impressions par rapport au jeu avant que j'y aille avec les miens.
D'accord. En fait, beaucoup de hasard côté des dés. Ça peut être favorable comme défavorable, oui. N'est-ce pas? Expérience de la fin de semaine passée, JB est descendu chez moi. Il m'a initié au jeu de Catan. Et la première partie, je n'ai quasiment pas reçu de ressources par les dés.
Tu aurais pu ne pas être là puis que ça aurait revenu au même, là.
À peu près, j'ai réussi à faire 2 villages.
Yeah!
Tout ce que j'ai réussi à faire dans une partie au complète. Et 2 villages donnent 2 points. Donc, j'étais très, très loin du 10 points. Donc, oui, ça vient rajouter du plaisir ou une frustration, tout dépendant à quel point le hasard est de notre côté. Mm-hmm. Par contre, c'est certain qu'il faut aimer aussi ce petit côté-là, ce petit côté gambling quand on se place initialement sur la carte. Mais sinon, les petites stratégies qu'on peut avoir pour venir bloquer, pour essayer de détendre son empire en quelque sorte, pour avoir plus de types de ressources différentes ou de voir aussi quelles sont les ressources qui sortent souvent. On voit aussi un peu, OK, tel joueur a beaucoup de telles ressources, mais aucune de telle autre. Bon, je peux faire un échange avec lui parce que j'ai besoin de ressources que de beaucoup, puis il n'y a pas de la celle que moi j'ai. Donc, ça, c'est des petits éléments qu'il faut observer au courant du jeu pour devenir bon, mm-hmm. qui fait que c'est quand même très intéressant. Et comme tu le disais, le plateau, on l'installait toujours de manière aléatoire en commençant, ce qui faisait que chaque partie est totalement différente.
Ben, et différente dans la disposition, on s'entend que le jeu, c'est un jeu qu'on utilise pour initier, tu sais, moi et ma blonde, au nouveau joueur, tu sais, pour des nouvelles mécaniques de jeu, c'en est une qui, après ça, ouvre les portes à plusieurs autres jeux qui sont plus approfondis. Par contre, ce que je trouve particulièrement dommage dans ce jeu-là, c'est que à 2 joueurs, tu as des parties qui habituellement sont assez équilibrées. À 3 joueurs, tu as habituellement un joueur qui fait moins de trucs. Tu en as toujours un qui est pas mal désavantagé. Et à 4 joueurs, tu en as pratiquement 2 qui n'ont pas de fun. Là. Où tout le monde est vraiment ralenti et que ça finit par faire une partie qui est lente, longue et plus pénible parce que personne reçoit vraiment les ressources qu'il a de besoin. C'est le facteur, moi, qui fait que je joue moins régulièrement que je jouais. Parce que à force de faire des parties, et ma blonde et ma chante là-dessus, quand on joue avec des nouveaux joueurs, souvent, parce qu'elle est sympathique et moi, je suis le grincheux, elle se met avec les nouveaux joueurs pour me bloquer moi. Fait que j'ai habituellement des parties moins le fun. Fait que, mais ça, c'est des ça arrivera pas vous autres. Vous autres, vous avez pas ma blonde et vous n'êtes pas moi, fait que ça vous arrivera pas. Mais c'est le genre de situation qui, en dehors de la game, vient influencer la game en tant que telle. Fait que c'est le genre de jeu que je vous dirais, oui, ça joue. Nous, on a même acheté une extension à 5 et 6 joueurs pour pouvoir jouer en plus grand groupe parce que de base, c'est un jeu qui joue de 2 à 4. Mais je vous dirais que la façon optimale là, pour avoir du plaisir, c'est à 2. Ensuite, un peu moins de plaisir pour tous les joueurs, genre en moyenne, à 3, puis ben, à 4, oui, c'est possible, mais il y a moins de fun. Là où est-ce qu'on peut faire des modifications, c'est que rien ne nous empêche de rajouter des tuiles. De base, le jeu est fait pour un certain nombre, mais quand tu achètes l'extension pour 5 et 6 joueurs, ben, tu peux agrandir l'île pour qu'elle soit un peu plus grande. Ce qui fait qu'on se pile moins sur les pieds parce qu'il y a quand même des règlements qui empêchent certains positionnements de bâtisses. Tu peux pas à moins de 2 de distance de route. Fait que ça vient faire en sorte que, ben, dépendamment de la disposition des autres joueurs, ça vient bloquer les emplacements. Et donc, ça limite les accès sur le jeu, ça limite où est-ce que les gens peuvent se placer. Et sur la dans le fond, le nombre de tuiles de base du jeu, ben, à 3, on est serré. À 4, on est très, très serré. Donc, ça vient limiter les possibilités. Fait que si on rajoute des tuiles, ben, on ouvre le terrain de jeu et ça ouvre les possibilités pour les joueurs. Fait que, ouais, c'est ça. Ça serait de ce côté-là, le côté aléatoire. Ben, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment moins ça. Moi, je suis rendu à un stade en tant que joueur où est-ce que j'aime que ça soit mes décisions, j'aime contrôler ma destinée, j'aime que ça soit mon cerveau et ma compréhension des règles et des attributs du jeu qui font en sorte que j'ai plus de chances de gagner que les autres joueurs. Donc, les jeux de hasard, ça m'interpelle de moins en moins plus je découvre des nouvelles mécaniques et des nouveaux styles de jeu. Toi, si t'avais une appréciation à donner sur le jeu Catan?
Comme tu le disais d'entrée de jeu, c'est un jeu qui est très simple à rentrer dedans pour n'importe quel type de joueur. Donc ça, c'est vraiment un côté positif. Le côté de hasard, oui, peut être agaçant, mais c'est où? Un peu une relation amour-haine que j'ai avec ce point-là, en fait. C'est autant que c'est plaisant de ne pas savoir si on va recevoir des ressources, autant que ça peut devenir frustrant de ne pas en recevoir pendant 3-4 tours de suite, parce que si tu ne reçois pas plus de ressources, ton tour, tu ne peux pas faire plus que ce que tu as fait le tour d'avant. Donc, c'est là que ça devient un petit peu frustrant pour certains joueurs, surtout quand tu es le nouveau joueur qui se fait initier, puis ta game se passe pas bien, c'est sûr que c'est moins intéressant.
Exact.
Moi, par contre, ça m'a pas rebuté. J'ai continué, j'ai joué une deuxième partie où est-ce que ça finit vraiment de manière serrée à 3 joueurs et ça a été vraiment très drôle et très plaisant. Donc, ça dépend aussi des autres joueurs pour ton plaisir. Si les autres joueurs ont juste comme objectif de toujours te bloquer, ça se peut que t'aimes juste pas le jeu à cause de ça.
Ouais.
Parce que c'est pas, t'es pas isolé dans ton coin, t'es vraiment sur une map où ce que tout le monde peut toujours venir essayer de te bloquer, ficeler un plan autour de toi ou faire quoi que ce soit pour t'empêcher de gagner. Donc, tout dépendant, comme je disais, les autres joueurs, s'ils sont, désolé du terme, mais requins, ou sont des bons joueurs qui, eux autres, sont juste là pour se faire du plaisir et que t'en es toi aussi, ça peut changer aussi beaucoup dans ce jeu-là. C'est un des jeux qui est très basé sur ce principe-là. Comme tu disais, tu préfères contrôler ta destinée. Dans ce jeu-là, tu en contrôles à moitié.
Oui, c'est ça. Les autres joueurs ont une influence. Exemple, la deuxième partie, on voyait que toi, tu t'enlignais. Tu sais, tu avais des moins bons chiffres, tu étais dans une moins bonne position. Ben, tu sais, des fois, tu fais comme ben, dans un échange, ben, au lieu de demander un 2-1, mettons deux cartes de toi pour la ressource que tu as besoin de moi, tu sais, de faire un 2 contre 1, ben, tu fais du 1 pour 1, puis tu sais, oui, ça t'avantage un peu moins, mais ça donne pas une chance à l'autre, c'est plus d'équilibrer un petit peu les forces du jeu, puis de contrer un peu ce que le hasard du positionnement des tuiles, puis des positions initiales a amené. Puis, tu sais, c'est pas parce que... Comment je dirais ça? C'est pas parce que c'est pas serré que tu vas avoir plus de fun. C'est pas parce que tu écrases ton adversaire que tu vas avoir plus de fun. C'est plutôt l'inverse. Ben, la deuxième game qu'on a jouée, ça a fini par être super serré. On s'est changé la carte de la route la plus longue. Et ben ça, c'est 2 points. Fait que, ah, j'étais à 9 points, tu me l'enlèves, je tombe à 7, toi, tu remontes à 8. Là, c'est une course vers la finale. Puis finalement, c'est ma blonde qui a gagné les deux games. Et la deuxième partie, ben, on a eu tout plus de fun, tu sais, parce que c'était serré, puis parce que tout le monde, ça avançait les affaires, puis il y avait moins de frustration. Mais ça, ben, c'est les dés, c'est le placement des tuiles, c'est vraiment le côté hasardeux qui fait en sorte que, ben, c'est un peu un hasard de savoir si tu vas avoir du fun ou non dans ta partie, puis le niveau de plaisir que tu vas avoir.
Totalement d'accord.
Ouais, fait que à ce niveau-là, autant c'est un jeu que j'aime utiliser. Parce que c'est une bonne façon de rentrer dans cet univers-là. Parce que, tu sais, si je te parle de jeu de placement d'ouvriers, un jour, je ferai peut-être la critique du jeu Agricola que ma blonde, tu sais, je l'ai revendu parce qu'elle, je sais que c'est trop compliqué pour elle. Elle ne joue pas à des jeux de société pour se casser la tête. Moi, j'aime bien ça, mais elle, non. Fait que, tu sais, je ne me ramasserais pas à jouer tout seul. Tu sais, chez nous, tu peux même pas. Fait, tant qu'elle l'avoir qui prend poussière, ben, j'ai fini par le vendre. Mais j'adorais ça. Ben, elle, je sais que c'est une mécanique qu'elle n'aime pas. Ben, parce que c'est un autre niveau. Là, ça devient très complexe assez rapidement. Là, ma blonde est dans le cadre de porte. Fait que, hey, tu parles de moi? Oui, je parle de Agricola. Elle est en train de me chicaner. Donc, ben c'est ça. La mécanique de placement d'ouvriers, c'est plus complexe. Il y a des jeux que c'est assez simple là, que tu peux apprendre, mais celui-là, dans ce jeu-là, c'est un contexte qui est pour joueurs assez expérimentés. Donc, c'est pas une bonne porte d'entrée pour initier quelqu'un au jeu de société. Ben, Catan, ça, c'est vraiment simple. Ça ouvre la place, ça ouvre la porte à de nouvelles mécaniques. Fait que pour cette raison-là, je vais y donner une note un peu bonifiée par rapport à mon appréciation personnelle. Si c'était juste de moi, je te dirais, ben, c'est un 6. Parce qu'à force de voir différentes parties, différentes expériences, je suis un peu tanné de jeu-là. J'en ai fait pas mal le tour. J'ai des centaines de parties derrière la cravate de jouer de ce jeu-là avec plusieurs joueurs. Mais pour l'utilité du jeu, cette plus-value-là c'est une pièce parfaite pour initier des nouveaux joueurs, ben, je vais y donner un 8 parce que c'est toujours le jeu qu'on traîne. Dès qu'on sait qu'on est avec un nouveau joueur, je l'amène de base parce que je sais que c'est facile d'initier des joueurs avec ça puis que ça va... Je mets les chances de mon bord pour qu'ils commencent à apprécier les jeux de société. Tu vois le genre?
Oui, oui. C'est une bonne idée. Très bonne idée, en fait.
Donc, c'est pour ça que je le traîne, je le garde. C'est pas le jeu que je joue le plus, mais dès qu'il y a des nouveaux joueurs, c'est le jeu que je sors. Fait que, tu sais, il y a clairement une force dans ce jeu-là qui est non négligeable et qu'on ne peut pas passer sous silence. En plus, il est quand même assez accessible. On parle de, je pense que c'est sur Walmart, là, sur le site web, je le voyais, là, il est comme à 60$. Là. On s'entend, là, il y a des jeux, là, on parle de 110, 120, 130$. On est loin de là. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de plaisir à avoir. Il y a plusieurs extensions aussi de base, c'est un jeu de 3 à 4 joueurs, 4 joueurs maximum. Il y a une extension pour pouvoir jouer de 5 à 6 joueurs, donc qui rajoute des tuiles et des petites figurines pour les villes, les villages et les routes de couleurs supplémentaires. Tu as aussi des extensions qui, exemple, l'extension des marins, qui va permettre, au lieu de jouer sur une grosse île, d'en avoir plusieurs et d'avoir des bateaux qui te permettent de circuler d'un endroit à l'autre. Tu as Ville et Chevalier qui amènent des nouvelles ressources différentes et des possibilités un petit peu plus de... C'est quasiment comme un RPG, là. C'est quasiment un jeu de rôle rendu là parce que tu peux avoir des villes, tu peux avoir des universités qui débloquent de nouvelles fonctions. T'as 4 grosses extensions et t'as des modes de jeu que tu peux faire de manière différente. Tu peux adapter les règles. Fait que c'est vraiment un jeu qui est malléable. Selon ce que vous préférez, selon ce que vous aimez plus ou moins, vous pouvez adapter les règlements pour le mettre à votre main. Fait que pour ça, je vais lui donner quand même un bon gros 8 sur 10 parce que ça vaut amplement la peine.
Deux questions pour toi, en fait.
Oui, vas-y.
La première, autre que l'extension pour jouer à plus, est-ce que tu as essayé d'autres extensions dans le lot?
J'ai l'extension Rivière. En fait, pas Rivière, mais Marin. Je l'ai. Je l'utilise pas nécessairement parce que souvent, je joue avec des nouveaux joueurs à ce jeu-là. Donc, j'y vais avec les règlements de base parce que je ne mènerai pas une complexité au jeu quand je l'utilise pour sa simplicité. Fait que pour ça, je l'ai, mais je l'utilise pas. Et j'ai déjà possédé Ville et Chevalier, mais dans un déménagement, j'ai perdu le jeu Catan en général et il a fallu que éventuellement je le rachète. Alors voilà.
Mais est-ce que les extensions valent la peine ou pas?
Ville et Chevalier, c'était vraiment une extension qui était le fun parce que ça renouvelait le jeu avec de nouveaux règlements, de nouvelles ressources. Ça amenait la possibilité ça diminuait l'impact du hasard dans le jeu. Et comme j'aime moins l'aspect hasard du jeu de Catan, quand tu le diminues, j'aime plus le jeu. Fait que je te dirais que pour mes goûts à moi, ce serait l'extension que j'inviterais les gens à privilégier s'ils veulent ajouter de nouvelles variantes au jeu Catan. Sinon, les autres, Barbares et Marchands et Pirates et Découvertes, je ne les ai jamais possédés, j'y ai jamais joué. Donc, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il y en est.
Merci pour ça. Puis, un petit point que je voulais rajouter. Hein. Oui. Catan Junior. Donc, une version junior du jeu. Donc, pour les jeunes, ça peut être super intéressant aussi. Si c'est aussi simple que la version adulte, et encore là, plus simple, étant donné que ça va être adapté pour un auditoire junior, ça peut être très intéressant aussi pour initier les enfants.
Oui, tout à fait. Il y a même là dans les règles maison, là, je suis sur la page wiki, puis on dit les enfants de Catan, ça c'est le jeu, mais tu peux même y aller avec une variante pour jouer avec des enfants de moins de 10 ans. T'enlèves les cartes développement, t'enlèves les cartes qui donnent les 2 points supplémentaires là, pour la route et l'armée. Tu enlèves, dans le fond, la possibilité d'avoir des négociations parce que des enfants en bas de 10 ans, tu peux les arnaquer comme tu veux. Là. Ouais, OK, c'est bon. C'est un bon deal, mais non, pas tant. T'enlèves cette affaire-là et t'enlèves les distances entre les... Parce que dans le jeu, il faut que tu aies un minimum de 2 distances de route pour pouvoir construire un nouveau village ou une nouvelle ville. Donc, ça limite les espaces. Si tu enlèves cette règle-là, ça veut dire qu'à 1 distance, tu peux construire. Fait que ça ouvre complètement la carte. Et avec ça, ça rend le jeu beaucoup plus accessible. Fait que même avec le jeu de base, en enlevant certains règlements, tu peux le rendre accessible à des plus jeunes joueurs. Fait que tu sais, quand je te dis c'est le genre de jeu où est-ce que tu mets tes variantes puis tu mets tes règlements puis tu l'adaptes à ce qui fait plaisir à ta gang de joueurs, c'en est un. C'est vraiment un canevas. Tu sais, t'as une feuille, elle est pas vierge, il y a des règlements, mais tu peux adapter puis tu le transformes à ta guise parce qu'il est très versatile comme jeu. Alors voilà, c'est ce qui va compléter pour l'émission de la première édition du Le Plateau de la réalité augmentée.
Faudrait que tu réussisses à le dire de manière sérieuse une bonne fois.
non, ça n'arrivera pas. Le Plateau. Oui, je l'ai eu. Écoute, Max, un gros merci. On va reprendre ça dans un mois. On va être un peu moins rouillé. On va apprendre à jaser de manière podcastienne. On va faire moins de blanc. On va se délier les langues. Et on va s'améliorer. Là, c'est une première expérience. On va apprendre à se connaître dans cette facette-là de notre amitié. Et on va découvrir tout plein de jeux de société ensemble.
En effet, j'ai bien hâte.
Ouais. Moi, j'ai plein de jeux. À un par mois, là, je ferai jamais le tour. OK? Je vous avertis, là, je ferai jamais le tour.
T'en achètes trop.
Oui. Puis t'as vu l'aspect un peu compulsif. On est allé, pour faire histoire courte, on est allé dans ton patelin, dans ta région, dans le secteur de Sherbrooke, et tu nous as amené à la boutique L'Imaginaire, qui, si t'es pas, comment je dirais ça? Si t'es pas quelqu'un de solide à l'intérieur de toi, tu peux tomber facilement dans le vice et tout acheter, là. Et il y a un gros, gros, gros département jeux de société. Et là, on dit « Ah, ça, c'est le fun! Ah, ça, c'est le fun! » Et j'ai sorti de là avec 2 jeux, dont 2 games.
Moi, j'ai réussi à résister. Ça a été difficile, mais j'ai réussi à résister.
Faut pas aller là trop souvent. C'est sûr que tu fais faillite. Donc, ceci étant dit, je vous remercie les auditeurs d'avoir été de la partie pour cette nouvelle facette de la réalité augmentée, le plateau. Et si vous avez apprécié, si vous avez des jeux que vous voulez nous faire découvrir, que vous appréciez énormément et que vous aimeriez qu'on parle sur l'émission, faites-nous-en une mention sur la page Facebook de la réalité augmentée. Nous sommes aussi sur Twitter, donc venez discuter avec nous, ça nous fait énormément plaisir. Et moi, personnellement, je vais gagner sur Facebook. Mentionnez-moi que vous m'écoutez sur mes différents podcasts, la POC, le Magazine Général et la Réalité Augmentée. Et je vous ajouterai avec grand plaisir. Max, toi, as-tu un Twitter ou quelque chose que tu veux plugger sur les interpubs du web?
Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @MoxMixMax. Cherchez Maxime Jugard, ça va être pas mal plus simple.
Moi, je sais jamais dans quel ordre. Okay? MixMaxMox, MoxMixMax, je ne sais plus. Fait que on invite les gens à te suivre aussi et, comme je disais, à nous proposer des jeux. Et s'il y a des gens qui veulent se joindre à notre division aux jeux de société, je relance l'appel. Venez, tu sais, à trois, pour avoir encore plus de fun. Fait que ça vous tente de joindre la division, le plateau de la réalité augmentée, ça nous ferait plaisir. Sur ce, on vous souhaite du bon gaming, jeux vidéo, jeux de société, des films, plein de tout ce qui vous fait triper dans la geekitude. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye tout le monde!